Bien, bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous, ou en langage inclusif, bonjour à tous. Donc, je suis Didier Fèvrel, président de l'association Fabrique Territoire Santé, et je vous souhaite, au nom du conseil d'administration et du bureau de la Fabrique, je vous souhaite la bienvenue pour cette sixième rencontre nationale 2021 de l'association Fabrique, donc Territoire Santé. Rencontre qui est intitulée Dynamique territoriale de santé, deux points, work in progress, et pardonnez tout de suite l'anglicisme, mais ça parle bien. Alors, comme vous avez pu le constater, nous avons dû changer le format de cette rencontre, qui n'est donc plus une occasion de se retrouver ensemble dans un même lieu, et du fait de la pression épidémique de ce virus qui nous gâche un peu la vie. C'est une mesure de précaution logique pour nous, mais j'avoue que c'est quand même un crève-cœur. Mais comme je l'ai dit, je n'avais pas forcément envie d'être le président d'un cluster, donc voilà, donc c'est déjà une chose. Nous avons voulu la maintenir absolument sous une forme que toutes et tous connaissent bien maintenant de nos jours, sur une forme de webinaire pour une matinée de plénière. Les travaux en atelier seront reportés en 2022 selon des modalités qui restent à établir. On a voulu la maintenir aussi, ne serait-ce que pour parler santé et territoire, un thème qui ne semble pas beaucoup inspirer les candidats potentiels à la fonction présidentielle, qui sont englués pour le moment dans des questions identitaires et sécuritaires, alors que le système hospitalier craque de tous côtés. Système hospitalier dont pourtant le fonctionnement est devenu le critère principal des décisions politiques dans la crise sanitaire que nous vivons. Parler santé donc, alors qu'un économiste, Éloi Laurent, vient de publier un essai, Et si la santé guidait le monde, sous-titré L'espérance de vie vaut mieux que la croissance. Donc pour ce matin, nous allons entendre tout d'abord Catherine Richard et Chantal Manouni, qui sont administratrices Fabrique Territoire Santé. Catherine Richard qui se présentera plus en avant et Chantal Manouni qui a accompagné la création des ateliers Santé-Ville entre 2001 et 2009. Cette première séquence sera animée par Arnaud Vigne, qui est vice-président, et qui vont revenir sur la création des ateliers Santé-Ville en nous posant la question et si c'était à refaire. Et puis nous aurons une table ronde que j'aurai le plaisir d'animer sur le thème de ce qui reste à fabriquer ou à consolider comme dynamique territoriale de santé dans la continuité des ateliers Santé-Ville avec Carole Bégout, Mara Brun, Sonia Charapoff, Barbara Perelman, Hélène Chappet, Cécile Lambert et Pierre-André Juven. Je dois apporter aussi les excuses de François Beck de Santé publique France qui n'a pas pu, pour des raisons d'agenda, se joindre à nous. J'en profite donc maintenant pour remercier l'Agence nationale de cohésion des territoires, la Direction générale de la santé et Santé publique France pour leur soutien constant et indéfectible, et je les en remercie vraiment. Toutes ces personnes se présenteront plus tard en début de la table ronde, donc je laisse pendant. Mais avant de donner la parole à Arnaud, laissez-moi vous livrer une réflexion personnelle. Nous vivons dans un monde marqué par la prééminence d'une idéologie néolibérale dont les axiomes sont les suivants. Il n'existe que des individus théoriquement libres et égaux devant la loi. Il n'existe pas de société, ni de collectif, ni de culture. Le seul mode de coordination souhaitable entre les sujets humains est le marché libre et sans entrave, qui s'autorégule tout seul pour le plus grand bien de tous. Et à cela, il n'y aurait pas d'alternative. Cela explique en partie pour quelles raisons nous avons, nous les chantres de la promotion de la santé, des difficultés à faire comprendre un certain déterminisme sur les représentations et les comportements des individus par le biais de ce que nous appelons les déterminants de la santé. En effet, la santé n'est pas uniquement déterminée par notre libre arbitre, elle est aussi par les politiques publiques, quels qu'en soient les domaines, le transport, l'emploi, l'urbanisme, etc. Elle est déterminée par la société, déterminée par la culture et par un tas d'autres facteurs, dont le cadre de vie, les conditions de vie ainsi que l'organisation du système de santé. Et ce ne sont pas les leçons des impacts de la crise sanitaire de la COVID qui vont me détromper. Nous sommes sous influence, donc, et c'est ce que nous martelons depuis des années et des années par le paradigme de la promotion de la santé. Et c'est dans ce contexte que nous pouvons, en tant qu'individus, faire valoir notre libre arbitre, notre capacité à être et notre capacité à agir. C'est un équilibre complexe à tenir, mais c'est possible pour peu que l'on admette que les êtres humains sont des êtres sociaux, pour qui la plus grande richesse est la richesse des rapports concrets qu'ils entretiennent entre eux dans le cadre d'associations, de sociétés ou de communautés de taille et de nature variable. Cette dernière partie étant une citation du deuxième manifeste convivialiste. Avant, je vais passer la parole à Arnaud, mais d'abord, je vais remercier donc la ville de Saint-Denis qui nous a accueillis pour ce webinaire au dernier moment. Merci aussi à Karine Buisson, notre administratrice, et remercier aussi l'Institut régional d'éducation et de promotion de la santé Nouvelle-Aquitaine qui nous permet en fait de pouvoir bénéficier de ce Zoom. Voilà. Et donc, Arnaud, je te passe la parole.
Merci Didier. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous m'entendez bien. Vous l'aurez compris, on organise ce webinaire dans des circonstances un peu particulières. Au pied levé, il a fallu s'organiser. Donc, je crois que tout va bien fonctionner. Première partie, l'idée, c'était bien de regarder un peu dans le rétroviseur et d'essayer de comprendre comment on en est arrivé là, parce qu'on fête les 10 ans de la fabrique, mais plus largement, on fête 20 années d'expérimentation, de tâtonnement, de structuration, et qui ont quand même une date charnière, c'est la création des ateliers Santé-Ville. Ça paraissait évident de passer la parole à Catherine, Catherine Richard. Donc, je suis ravi que tu aies accepté de prendre la parole, de revenir sur l'histoire des ateliers Santé-Ville. Tu es administratrice de la fabrique, mais tu es bien plus que cela. C'est grâce à toi qu'on est réunis aujourd'hui, d'ailleurs, et que certains comme nous, on se connaît depuis plus de 10 ans. Voilà, donc explique-nous, Catherine, comment tu en es venue à imaginer l'atelier Santé-Ville, à quels besoins ça répondait à l'époque, et ainsi que les grandes étapes de son déploiement en France. Tu as une vingtaine de minutes pour faire ça, alors je ferai des signes pour t'alerter. Tu as la parole, ouvre ton micro si ce n'est pas le cas. Merci.
Bonjour, bonjour et merci à tous d'être là. C'est vrai que ça n'a pas été un exercice facile de revenir sur ces 12 ans passés à l'ADIF, puis après au secrétariat général des comités interministériels des villes. On m'a demandé de savoir d'où venait cette idée des ateliers Santé-Ville, ainsi que son nom, et donc j'ai préparé ce que je vais vous lire pour intervenir ce matin. C'est en premier lieu, j'étais infirmière pendant 15 ans aux urgences de la PHP. Et la volonté de comprendre dans quel système l'hôpital était régi et fonctionnait m'était importante, de savoir où j'exerçais mon métier, de même que d'essayer de comprendre le travail d'autres professionnels, souvent des amis que j'accompagnais, dans leurs travaux. L'hôpital ne répondait pas aux besoins de la population de son secteur, territoire regroupant plusieurs communes. Une fois passé aux urgences, aucune orientation possible pour une prise en charge. Un ancrage territorial peu organisé qui répondait à d'autres critères que ceux d'une analyse des fréquentations et des motifs de consultation. J'aurais plein d'exemples à donner à ce titre-là. C'est cet isolement de l'hôpital sur un territoire qui m'a motivée à faire une formation de santé publique d'abord. Le soin ne me paraissait plus être la seule réponse. Et bien plus tard, j'ai fait une maîtrise de santé publique et gestion des territoires au CNAM. C'est ce qui m'a aidé aussi à revenir sur le temps passé. En second lieu, mes expériences à Médecins du Monde. D'abord en participant au premier centre de dépistage du VIH en France, puis l'expérience déterminante en banlieue parisienne comme responsable des missions banlieue de Médecins du Monde. Rencontre de la population, des associations, des médecins libéraux. Ce n'est pas simple pour eux de voir Médecins du Monde arriver. Et des hospitaliers qui m'ont bien accueilli plutôt. Des structures municipales, comme les centres de santé, dont les municipalités en ont beaucoup en banlieue, et la plus importante, celle de vivre et comprendre le pouvoir des maires et de leur politique, car il n'a pas été simple d'être médecin du monde dans une mairie communiste, c'était leur politique, voilà. Il y a des citoyens pauvres et des invisibles, c'était ce qu'il fallait que je prouve aussi aux maires. C'est surtout les invisibles, parce qu'ils pensaient que toute la pauvreté allait arriver sur sa commune. Avec des situations sociales de santé complexes, exigeant la mise en place de projets hors du soin. Accès aux droits, accompagnement le plus large qui soit, travail avec tous les autres acteurs, c'est un des partenariats que l'on peut tisser, formation des jeunes des missions locales en échec scolaire, à la logistique humanitaire, c'était à Bordeaux, formation de médiatrices en santé, ça c'était pour moi une évidence, et enfin Rome-Europe, puisque j'ai rencontré les Roms après la chute du mur de Berlin, c'était en 91. C'était une recherche, une première recherche européenne avec sur 7 pays européens pour les Roms. Et enfin, un milieu de vie, un entourage familial et amical d'urbanistes, de paysagistes et d'architectes pour la lecture des ségrégations spatiale. On faisait des séminaires tous les troisièmes jeudis de chaque mois et présentait leurs projets, des similitudes de leurs propos lors de la présentation de leurs projets sur le fonctionnement d'une ville et celle du corps humain étaient semblables. Alors, c'est intéressant de voir ça parce qu'ils ont employé beaucoup des mots de circulation, flux, des caries, la qualité du bâti, l'environnement et les moyens contraints de mise en œuvre, puisqu'on n'a pas tous… Et le cœur des villes, maintenant on parle des centres-villes, c'est le cœur des villes. Alors, pourquoi la politique de la ville m'a intéressée? D'abord, ce que je voulais peut-être dire dans ces trois phases de mon parcours, ça aurait été d'aboutir à l'ouverture de l'hôpital sur la ville et de ses ressources, de continuer à faire la preuve des besoins des populations des quartiers, ce que je recevais le plus souvent à Médecins du Monde, le pouvoir des maires, le pouvoir de convocation, comme me rappelait Arnaud très souvent, le pouvoir de convocation des maires, mais aussi de casser peut-être des partenariats qui sont nécessaires pour continuer une action. Alors, pourquoi la politique de la ville? C'était une belle rencontre aussi. C'est des urgences à Médecins du Monde. L'évidence, c'est la limite du soin surtout. Et nous sommes en fin d'année 98, en proposant d'entrer à la délégation interministérielle à la ville. Dans l'attente de ma prise de poste, je lis des documents et des bilans sur les problématiques de santé, les actions menées de 1988 à 96. Il y en a peut-être qui sont même pas encore nés. Dont un extrait me revient de Didier Fassin. La santé dans les villes fait l'objet de politiques, celles des municipalités, bien sûr, même si dans le domaine sanitaire, les compétences qui leur sont attribuées par les lois françaises de décentralisation sont réduites. Celle de l'État, à travers la politique de la ville, qui, au fur et à mesure qu'elle se développe, intègre de plus en plus une dimension de santé publique qui avait semblé relativement absente des premières opérations de DSQ. Il serait alors inapproprié de parler de politique de la santé des villes, mais de quelle manière les villes produisent ou pas de la santé publique au niveau local sur les sites d'intervention de la politique de la ville, autre niveau et autre logique que spécifiquement urbaine. Il s'agit de comprendre comment des actions de santé se développent, quels acteurs s'y associent, de quelle manière la santé devient un enjeu politique en même temps qu'un objet politique, comme l'a écrit donc Didier Fassin en 96. Ce qui m'agitait et me motivait le plus, c'était d'arriver à construire l'adéquation entre la politique de la ville, celle d'une géographie limitée, avec tout ce qu'elle décline en fait, entre la politique de la ville et la santé publique qui fait intervenir plusieurs champs d'action qui se retrouvent pour la plupart au sein des services municipaux. Le pouvoir de convocation des maires et le pouvoir d'agir via le contrat avec l'État, c'est une question. Le cadre de l'ASV est né de cette recherche d'adéquation entre les fondamentaux de la politique de la ville et ses articulations avec l'articulation de toutes les politiques municipales et d'État pour réduire les inégalités territoriales, parce qu'on parle de territoire, et ceux de la santé publique, puisqu'on parle d'inégalités aussi sociales et territoriales de santé. Donc, pour la santé publique, c'était thématique santé, et fin 98, nous sommes dans la publication de la loi contre les exclusions, dans le volet santé de cette loi totalement social, c'était le seul volet qui soit inscrit et qui s'appelle les programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins. Donc les PRAPS, c'était le point d'appui, c'était aussi une nouveauté de voir la santé s'introduire dans le champ social. Et puis les territoires d'exception sur la politique de la ville, la population en situation de précarité, c'est évident qu'il y avait des raisons pour lesquelles il fallait agir dans ces quartiers, et la médiation sur aussi bien un médecin du monde que pour d'autres. J'ai eu recours à la médiation et ça me paraît absolument indispensable encore aujourd'hui et peut-être bien plus aujourd'hui, notamment sur la question de la santé. C'est un clin d'œil à Bénédicte. Transversalité des compétences des villes. Évidemment, il y a des services qui sont tout à fait opportuns pour pouvoir agir sur leur territoire communal ou intercommunal. Chef de projet et coordinateur des ASV, c'était la politique de la ville était la seule politique à pouvoir financer des postes, en particulier des coordinatrices. dans le cadre des contrats de ville et pas seulement des actions comme le droit commun du ministère de la Santé. Donc, après une année de compréhension de la gouvernance de la politique de la ville et de l'interministériel, ça c'était en 99, de synthèse des 18 sites expérimentaux pendant cette année-là pour élaborer le premier comité interministériel des villes du 12e plan, parce que c'est des plans, c'était en 99. J'introduis avec la complicité de la conseillère technique, on ne fait jamais les choses toutes seules, nous avons un cabinet du ministre qui, elle, découvrait les questions de santé puisqu'elle était sur l'éducation principalement, et j'ai donc pu pouvoir introduire le cadre opérationnel des ASV en prenant appui sur les PRAPS, ou les santé de la loi contre les exclusions. Atelier pour signifier la construction d'un travail en commun et en proximité avec les habitants et les acteurs locaux. Santé pour les questions de la promotion et de la prévention et pas seulement du soin. Je peux vous dire que j'étais vraiment dans le curatif avant en tant qu'infirmière et j'avais bien compris que vraiment le soin était suffisant pour pouvoir agir sur les questions de santé. Et puis la ville, parce que c'est elle, dans toutes ses composantes, qui produit une ville favorable à la santé de tous. Avec bien sûr d'autres responsables politiques de d'autres niveaux qui peuvent aussi évidemment agir. En 2001, à partir de là, commence un travail d'accompagnement, d'explicitation, de déplacement auprès des DAS, préfectures, villes, faire la preuve, analyser les obstacles, décliner ce que produisent les ASV suivant les configurations, les contextes, les politiques locales. Chercher d'autres compétences, y compris auprès des chercheurs en sciences humaines, pour donner de la matière aux diagnostics territoriaux et aux priorités relevées par les ASV. Je ne pourrais pas tous les énumérer ici, mais en particulier un peu de manière chronologique. Il y a eu l'ORSPER avec Jean Furtos qui a réuni les élus sur les questions de santé mentale, du moins qu'est-ce qu'ils pouvaient observer et dire sur les questions de santé mentale dans leur ville. L'INSERM avec Pierre Chauvin, qui est épidémiologiste social de la santé et travaille surtout sur les inégalités sociales de santé. Il a fait tout un travail en Paris et Première Couronne entre les quartiers et le reste des habitants. CCOMS Santé Mentale, ça c'était aussi une très belle rencontre puisque l'idée même d'une coordination et d'allier les partenaires essentiels sur les questions de santé mentale, eh bien le CCOMS le portait ardemment. PSYCOM, qui se trouve donc à Paris et maintenant a une action au niveau national et aussi d'une grande forme pédagogique avec un site que je vous recommande de regarder régulièrement. Puisqu'il y a plein de définitions et de cartographies, etc., et de conseils. CNFPT qui est venu un petit peu plus tard grâce à l'Institut Renaudot, fortement présent. Géographe de la santé et aussi l'implication de certains ARS au niveau territorial national. Je ne suis pas la seule à promouvoir ce modèle et à le développer. De fameux complices professionnels de la politique de la ville et de la santé publique étaient présents. Les deux sociologues, Fernando Bertolotto et Michel Joubert. La DAS du 93, ça c'est une personne qu'on ne peut pas oublier, incarnée par Fernand Pouillard et Thierry Béranger, qui sont l'acolyte et chargé de mission. Et le premier département à se saisir de ce cadre, c'est aussi un événement pour moi. Avec le monde qui pouvait être présent, le centre de ressources de la politique de la ville en Seine-Saint-Denis, incarné par Bénédicte Madelin, personnalité pilier de la politique de la ville dans le 93 et au-delà d'ailleurs, avec son équipe. Et bien sûr, la DGS. Viendront après DGOS, MIC, DGAS, INPES, je pense que vous connaissez tous ces anagrammes, ces contractions. Puis très vite, Chantal Manoni, médecin de santé publique, va suivre, accompagner et produire avec le Centre de ressources politiques de la ville le plus d'éléments descriptifs pour la compréhension à tous les niveaux du cadre des ateliers santé-ville. Et là, je vous incite à regarder la bibliographie que Vivia Santana a élaborée et qui sera sur le site. Bon, très vite, je vous présente les étapes qui ont boosté le développement des ASV pour passer de 30 Atelier Santé-Ville la première année à 300 en 2010, avec principalement comme région l'Île-de-France, Rhône-Alpes et PACA, Aquitaine pour les plus nombreux. Parallèlement à la rédaction de textes législatifs sur notre sujet, loi, circulaire, produit soit par la politique de la ville, soit avec les autres ministères, et là aussi vous aurez la bibliographie, enfin la liste des textes législatifs qui ont été élaborés à ce moment-là, et je pense que c'est une progression avec les partenaires avec lesquels je devais travailler. Donc, se sont déroulées des étapes politiques, voulues ou non, de la politique de la ville qui sont intervenus sur le développement des ateliers santé-ville et surtout le travail qui était relevé par les élus qui pouvaient monter au créneau pour faire valoir les problématiques qu'ils rencontraient, puisqu'il y avait un CNV, le Conseil national des villes, qui rassemblait des élus. Donc, il y a eu une première en 2001, c'est le constat de la désertification médicale dans les quartiers, un rapport qui a été remis en 2002, remis au ministre, à ce moment-là, c'était Kouchner, c'était, je crois, l'avant-veille des élections présidentielle. Et ce rapport qui a été présidé par Jacques Lebas, que je salue en retour ici, qui a été quand même une personne qui a suivi tous mes travaux et qui avait aussi inauguré la mission banlieue de Médecins du Monde. Donc, ce rapport, c'était une alerte de Claude Dillin, maire de Clichy-sous-Bois, qui était venu voir les conseillers techniques de Barcelone à ce moment-là, pour dire qu'il y a un gros problème de désertification et d'accès aux médecins généralistes et à d'autres spécialistes de la santé. Et qu'en cela, comment les médecins généralistes souhaitaient être aidés pour prévoir, anticiper le fait qu'ils partent à la retraite et aussi de remplacer, parce que déjà, des grandes désertifications étaient à l'œuvre. La création de l'ONSUS pour objectifier les inégalités sociales et territoriales de santé, c'est l'INSERM, le premier qui a fait un hors-série sur les problématiques de santé dans une publication de l'Observatoire national des zones urbaines sensibles. C'est en 2003 la création de cet observatoire. C'est la loi Borloo qui a inscrit cet observatoire avec la création de l'ANRU d'abord, puis de l'ACSEB un peu plus tard. Mais c'est grâce à cet observatoire que l'on a pu quand même faire remonter l'épidémiologie sociale, mais bien que ce qui est intéressant avec Pierre Chauvin, ce n'était pas que l'épidémiologie, mais bien sûr des enquêtes fortement riches. D'autres disciplines intervenaient. La mise en place du groupe régional de santé publique qui se saisit des ateliers santé-ville. Et ça, c'est une période aussi importante. Les groupements régionaux de santé publique ont financé leur projet, le projet des ateliers santé-ville, pour la territorialisation de la santé publique. Et ça, c'était en 2004, ce qui nous a beaucoup aidés, et aussi en termes d'expérimentation et de preuves que c'était possible. Rassemblement des élus à l'Assemblée nationale en 2005, où le ministre Marc-Philippe Daubresse fait sur la proposition d'un groupe d'élus locaux de la santé, le cinquième pilier de la politique de la ville. Ensuite, la création soutenue par la DIF de l'Association d'élus santé publique et territoire, qui réunit au départ les élus du séminaire Orsper, pour développer des politiques locales de santé publique dans un cadre contractualisé avec l'État. Ce sont les ASV de la politique de la ville et réduire les inégalités de santé sur leur commune. Les émeutes des banlieues d'Île-de-France, ça a été aussi une sacrée période. Les cabinets ministériels convoquent leur administration pour avoir des réponses. La médiation est fortement mobilisée et sollicitée et comprennent enfin le sens des ateliers santé-ville. Je pensais pouvoir fêter cela. Convention entre la DIV et les CCOMS, santé mentale, pour développer les CLSM dans les contrats de ville. La santé mentale était une priorité relevée par les ASV. Les travaux du CCOMS et les démarches politiques de son président qui s'appelle Jean-Luc Roëlan, crée ce que nous connaissons aujourd'hui sur son développement, c'est les conseils locaux en santé mentale, qui est le volet santé mentale des contrats locaux de santé. Voilà. En octobre 2008, il est enfin possible de faire un séminaire de 3 jours avec l'ensemble des partenaires. Je suis allée demander à Laurent Chambaud, alors à l'IGAS, d'être le grand rapporteur. C'est dans ce cadre-là que je l'ai rencontré la première fois, et où je lui avais présenté d'ailleurs les ASV, et il m'avait regardé avec des grands yeux ronds. Et je vous recommande fortement de lire la synthèse des 10 ateliers de la publication que vous avez aussi dans la liste de la bibliographie, qui, avec le recul, expose ce qui s'est déroulé depuis et fixe la tension entre les politiques de santé descendantes et ascendantes, entre le niveau national et le local. Enfin, la prise en compte des problématiques de santé de citoyens par les collectivités locales deviendra-t-elle un objet politique vu les enjeux croissants, encore accrus en période de pandémie, et quelle politique de la ville et de la santé de proximité pour agir sur les déterminants péjoratifs de la santé. Viendra la loi Hôpital patient santé territoire, la création des ARS et des contrats locaux de santé, des CLSM, volet santé mentale, je vous l'ai dit tout à l'heure. Participation du secrétariat général du CIV, c'est après la DIF, ça a été un secrétariat général au cahier des charges des CLS avec Laurent Chambeau, au secrétariat général de la Direction générale de la santé. J'ai un mot à dire là-dessus, parce que si c'était à refaire, j'aurais fait ainsi. J'étais assez mal à l'aise lors de la rédaction de ce cahier des charges qui n'a pas fait long feu sur le site de la Direction générale de la santé et qui était en fait un cahier des charges pour les futurs ARS. Ce que j'aurais voulu faire, c'était lutter dans la rédaction du cahier des charges des CLS pour la distinction entre le contrat local de santé et l'atelier santé-ville et travailler sur leur complémentarité entre territoires du CLS et ceux de l'ASV, territoires de population en situation précaire, quel que soit le modèle où ils se trouvent. C'est-à-dire que ce soit dans le monde rural, que ce soit dans l'urbain, la question est la précarité de réduire les inégalités. En 2010, donc la loi hôpital santé territoire et puis la loi en 2017 de modernisation pour renforcer, il renforce cette loi récente de 2007, c'est pas vieux quand même, les CLS, CLSM, la prévention introduit aussi la médiation de la santé. Et de l'ASV au CLS, le CLS inscrit dans le droit commun, dans une loi santé et non plus dans une politique de discrimination territoriale positive, une notion d'universalisme proportionné. Extension à tout le territoire de la commune, communauté de communes, agglomération. Je ne sais pas s'il y a des moyens supplémentaires, si l'intégration de tous les déterminants s'opère et si aujourd'hui l'objectif premier de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé s'étudie. Contrat qui attend la plus haute considération des politiques pour une incitation de tous les maires à s'engager pour la santé et où l'audace est une qualité dans ce cadre. Enfin, j'ai quitté le secrétariat général du CIV en 2010, car il n'était plus possible de faire des déplacements sur le terrain. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Catherine. Je pense que c'était important, voilà, de rappeler d'où vient cette dynamique, mais aussi d'où viennent nos questionnements. Beaucoup de choses ont eu lieu depuis, et pour certains, ils peuvent avoir l'impression que c'est quelque chose d'assez naturel ou spontané, et ce n'est pas le cas. C'est quand même 20 années au moins de progression, plus ou moins longiligne, chaotique. On verra, on appréciera ça, notamment sur la table ronde. Oui, alors, tu veux rebondir, juste dire que ceux et celles qui voudraient réagir à ton propos, n'hésite pas à investir le question-réponse s'ils en sont capables, parce qu'on a vu qu'il y avait des problèmes pour certains d'accéder à la fonction question-réponse. Sinon, ils le font dans le chat, discuter. Ils posent une question ou une remarque. Sur le chat, on relèvera tout ça. Catherine, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, je voulais juste dire que à mon départ avec Bénédicte Madelin et d'autres, à mon départ du SGCIV, j'ai bien compris qu'il fallait continuer à suivre la production des ateliers santé-ville. Chantal parlera aussi de la volonté qu'il y avait de faire intervenir les coordinateurs ASV dans multiples colloques, CNFPT, tout ce qui pouvait être des manifestations sur les questions de santé à l'INPES aussi, les coordinateurs pour montrer justement leur capacité de développement d'action. Mais ce que je crois beaucoup, c'est que ce suivi-là avait été un risque. Tout est fragile, comme on le dit souvent, mais la politique aussi, la continuité d'une politique est plutôt... espérer, mais voilà. Donc, du coup, on a créé la plateforme nationale des ateliers santé-ville et vous avez pris le relais là-dessus avec les CLS. Mais mes observations que j'ai faites restent valables pour moi.
Oui, mais je pense que tu auras encore d'approfondir tout ça. Je crois qu'il y aura des réactions et puis même sur la table ronde, peut-être que tu seras amené à prendre la parole. Je vais proposer à Chantal Manoni, donc administratrice, elle aussi, je te remercie. Peut-être plié à l'exercice, c'est-à-dire cette réflexion a posteriori. Ce qu'on t'a demandé, parce que tu as été une témoin quand même privilégiée du développement des ateliers santé-ville, c'est d'essayer de faire émerger, selon toi, ce qui a été le retentissement de l'atelier santé-ville et de son déploiement sur le paysage de la santé publique. Alors, c'est une question très délicate et ambitieuse, donc tu vas faire, je sais, ça très bien, tu es très consciencieuse et de toute façon, on voulait un point de vue subjectif et donc arbitraire sur la question. Merci.
Merci Arnaud, bonjour à toutes et à tous. Donc c'est vrai que ce petit exercice de réflexion, ça n'a pas été simple parce qu'en fait il y a beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas, dans le droit fil de ce que vient de dire Catherine, je pense qu'il y a tout le volet aussi très opérationnel avec tes cordeaux qui se sont prêté au jeu de réflexion et autour d'un certain nombre de questions. Le retentissement sur la santé publique, elles sont nombreuses. Moi, je voulais juste reprendre trois aspects sur lesquels on pourra aussi s'interroger sur eh ben, si c'était à refaire. Évidemment, pour moi, le premier aspect qui est important, c'est d'avoir contribué à rendre visibles et lisibles les inégalités sociales et territoriales de santé, avec des méthodes pour les comprendre qui sont précieuses. Évoquer la territorialisation, mais pas sous la forme d'une injonction, mais sous la forme du besoin méthodologique que ça demande. Et puis, le troisième point à développer, ce sera sur le métier de coordinateur, autour duquel on s'est vraiment beaucoup interrogé dans pas mal d'instances et sur plusieurs années, avec des questionnements qui restent encore valides aujourd'hui. Du coup, alors tout ça s'inscrit hein, dans un contexte dans les années 2000 où il y a eu la circulaire DIV-DGS, donc la fameuse du 13 juin 2000, et puis la circulaire DGS-PRAPS, deuxième génération, avec l'intégration donc, dans le PRAPS du cahier des charges des ateliers santé-ville. Alors, on pourra se questionner aussi des avantages et des inconvénients de cette intégration, mais en tout cas, à l'époque, c'était vraiment un plus pour promouvoir en fait une façon de travailler dans la proximité qui était essentielle pour réduire les inégalités. Alors le premier point, rendre lisibles les inégalités sociales, c'est aussi avoir des approches compréhensibles de ces inégalités. Moi franchement, fondamentalement, je pense que la démarche ASV a apporté vraiment un plus et à contribuer à toute cette mouvance pour faire reconnaître les inégalités de santé sur les territoires. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucun acteur qui peut en douter. Par contre, la méthode d'analyse de ces inégalités et les propositions pour les réduire, aujourd'hui, bah, l'approche compréhensive n'est pas acquise. Et Laurent Chambaud en parlait dans le webinaire en disant que bah, la santé publique, c'était d'abord et avant tout le croisement de plusieurs disciplines. Et puis, on s'aperçoit, Didier le rappelait tout à l'heure, hein, que finalement, l'approche épidémiologique et biomédicale reste prépondérante. Et que là, on peut peut-être s'interroger sur, et si c'était à refaire, comment on s'y prendrait pour essayer d'imposer un modèle qui tend plus vers la promotion de la santé que le modèle épidémiologique dominant. Moi, je trouve que dans la phase expérimentale des ASV, Catherine en parlait, hein, l'apport des sociologues, de Pierre Chauvin en épidémiologie sociale, nous ont vraiment aidé à comprendre les parcours de vulnérabilité et à en comprendre la complexité. Aujourd'hui, je pense qu'il faut encore travailler là-dessus parce que ce n'est pas acquis. Hein. On entend encore trop souvent que ben, s'ils sont pauvres, c'est bien de leur faute. S'ils sont en mauvaise santé, c'est bien qu'ils ne vont pas utiliser le système de soins, etc. Et donc, on a une espèce de victimisation des personnes qui continue à être insupportable. Et puis, moi, je voudrais aussi noter qu'en géographie de la santé, notamment avec l'Université Paris 10, il y a des travaux extrêmement précieux qui ont été produits pour comprendre les inégalités d'accès, par exemple, au dépistage du cancer du sein, et qui ont permis vraiment de comprendre ces inégalités et puis d'imaginer des réponses qui répondaient justement à cette analyse. Et là, je trouve que le croisement des disciplines prend tout son sens. En tout cas, dans la démarche Atelier Santé-Ville, je trouve que c'était vraiment un plus. Après, on reste dans une logique biomédicale, mais en tout cas, ce qu'a apporté la démarche Atelier Santé-Ville, pour moi, c'est d'activer un certain nombre de déterminants sur lesquels il fallait agir et qui dépassaient largement le champ du sanitaire pour trouver des réponses là où les réponses classiques, en tout cas à l'époque, et Catherine le notait bien, ne donnaient pas de résultats. Le deuxième aspect, c'était d'associer de nouveaux acteurs, des acteurs de la proximité. Et là, je citerai seulement les médiateurs, les femmes relais, aujourd'hui les pères aidants. Mais en tout cas, et Bénédicte me le rappelait quand on a discuté de la préparation de cette intervention, c'est que faire entrer des profanes sur des questions de santé, à l'époque, ce n'était pas gagné. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut continuer à légitimer la place de ces profanes, puisque, et c'est Michel Joubert qui le citait, hein, impliquer les profanes dans les politiques publiques, c'est vraiment s'appuyer sur trois enjeux. Un enjeu de citoyenneté, et de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Un enjeu de connaissance, parce que l'expérience vécue apporte une vraie complémentarité par rapport aux experts. Et puis, un enjeu de pouvoir, bien évidemment. Les ASV ont été, comme la politique de la ville, peut-être de façon plus générale, hein, le creuset d'études, de travaux, de recherche-action, et la capitalisation sur les expériences locales sont essentielles. Et on a pu travailler toutes ces années à justement essayer de capitaliser. Et aujourd'hui, la fabrique continue dans cette mouvance à capitaliser et rendre compte d'un certain nombre d'actions de proximité qui illustrent la diversité des réponses qu'il faut donner si on veut vraiment contribuer à réduire les inégalités. Aujourd'hui, les inégalités persistent, on le sait très bien, elles peuvent augmenter pour un certain type de population, et il ne serait pas juste de dire que ce serait un supposé échec de la démarche Atelier Santé Ville, parce que l'analyse, évidemment, elle est beaucoup plus large, elle est à partager. En tout cas, je pense que les propos de Renaud Epstein, qui nous disait qu'il fallait s'imposer collectivement dans un système d'alliance, est toujours vrai aujourd'hui, et qu'il y a sûrement des marges de ce côté-là à peut-être reprendre, retravailler pour avoir des alliances qui permettent de valoriser, de diffuser le type de démarche qu'incarne la démarche de Atelier Santé Ville. Alors à l'époque, on se disait toujours qu'il nous manquait le premier recours hein, dans la démarche, c'était des acteurs qu'on n'arrivait pas vraiment à capter. Bon, aujourd'hui, avec les CPTS, on verra si ça permet de mieux travailler avec le premier recours. En tout cas, il y a quand même des apports de coordinateurs aujourd'hui qui, justement, valorisent les apports et les travaux qui se font en coordination avec CPTS. Par contre, un point de vigilance, hein, c'est qu'on voit bien que ça tire très fort du côté d'une logique biomédicale, de la prévention médicalisée, alors que réduire les inégalités, ça s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large. Le deuxième point que je voulais apporter, c'est comment on s'ajuste au territoire, et qu'au-delà des incantations, pour moi, les territoires, c'est de la méthode. Et l'enjeu des ateliers de santé ville, hein, c'est proposer des modes opératoires là où les dispositifs classiques ne fournissaient pas de réponses pertinentes, mais à travers un cadre méthodologique qui était assez exigeant. En tout cas, cet apport méthodologique, on a pu le mesurer à travers l'évaluation du volet santé des CUCS et des monographies qu'on a réalisées à l'époque avec donc Fernando Bertolotto et Michel Joubert, où on a fait une dizaine de monographies sur des collectivités qui reprenaient évidemment l'expérience en Seine-Saint-Denis, mais qui aussi avaient été chercher d'autres éléments dans d'autres collectivités pour essayer d'avoir une vision plus élargie, on va dire, de tout ce travail autour de la santé. Je me souviens notamment qu'à Bourges, par exemple, la focale avait été mise sur l'accès au droit et que c'est la démarche Atelier Santé Ville qui a permis de bâtir les prémices d'un plan local de santé publique où la porte d'entrée était l'accès au droit avec différentes facettes. À Blois, on a vu en termes de méthode qu'il y avait une réelle interaction entre les groupes de travail portés par l'atelier Santé Ville et les groupes de travail animés par le chef de projet CUX, à savoir l'habitat, l'emploi, la réussite éducative, citoyenneté, prévention de la délinquance, et que c'est à partir de ce maillage en fait que les équipes réfléchissaient à un plan local de santé publique. Moi, je trouve que l'expérience de Blois, elle était vraiment intéressante parce que c'est là qu'on mesurait le potentiel, comment travailler la santé d'un point de vue transversal dans les collectivités, et on a pu démontrer que c'était possible. À Brest, on avait aussi une configuration très intéressante puisqu'il existait des référents territoriaux à Brest. Donc, l'approche était plutôt territoriale que thématique. Et en même temps, l'atelier Santé Ville permettait de réunir et de mieux articuler toutes les initiatives faites au niveau des différents micro-territoires de Brest. En tout cas, notre évaluation du volet santé des CUCS nous a appris aussi qu'il en existait plus de 400 hein, à l'époque, nous a appris que lorsqu'il existait un contrat urbain de cohésion sociale avec un atelier santé-ville, il y avait plus d'interactions entre la santé et les autres axes du CUCS, et donc plus de levées activées quant aux déterminants à mobiliser. Catherine a parlé des CLSM, évidemment. Alors, un point de vigilance peut-être, hein, qu'Arnaud rappelait, c'est qu'à un moment donné, la démarche atelier santé-ville a pu être confondue avec une démarche de santé communautaire. Alors, c'est vrai que certains élus ne comprenaient pas trop, en fait, la différence. Alors, c'est vrai que là, il faut qu'on replace les choses. Hein, la démarche atelier santé-ville n'est pas une démarche de santé communautaire, mais elle abrite des démarches de santé communautaire, évidemment, chaque fois que c'est possible de les déployer. Et ça, c'est un point de vigilance à avoir dans la compréhension qu'on donne à la démarche atelier santé-ville. Et puis, ajuster au territoire, pour moi, c'était aussi de la méthode. Et on se rappellera que la circulaire Atelier Santé-Ville a permis d'organiser les élus, les acteurs au sein d'instances, comme les comités de pilotage, les comités techniques, les groupes de travail, et que ça change vraiment la donne de travailler de cette manière-là. On a vu que quand les DAS étaient impliqués, les élus s'impliquaient. À l'inverse, et ça, c'est l'évaluation du volet santé des cultes qui nous l'a montré, quand les services déconcentrés de l'État n'étaient pas impliqués, bah, les élus s'impliquaient moins aussi. Hein. Et du coup, on voit bien qu'il y a une responsabilité partagée dans le succès et le développement de la démarche Atelier Santé-Ville et qu'il faut que tout le monde s'y mette. Les services de l'État déconcentrés, les élus évidemment, et puis un certain nombre d'acteurs qui travaillent au sein de la politique de la ville. En tout cas, dans la même évaluation, hein, on a aussi démontré que les contrats urbains de cohésion sociale qui avaient un atelier santé-ville avaient des instances de décision qui légitimaient finalement à la fois les analyses collectives qu'on avait pu faire des problèmes de santé et à la fois les réponses à donner et que ces réponses étaient mieux portées, en tout cas quand les contrats urbains de cohésion sociale avaient un ASV. Donc, dans ce cas-là, l'ASV a vraiment été porteur d'une méthode de travail qui a pu consolider les choses. Bon, après, on pourra discuter de si c'était à refaire, est-ce qu'il faudrait faire pareil. On sait très bien qu'à un moment donné, les services déconcentrés nous disaient « mais là, on ne va pas réussir à suivre individuellement une vingtaine d'ateliers santé-ville dans mon département, comment on s'y prend ?» Et là, il y avait peut-être des éléments de réflexion à apporter. Et puis, le troisième point que je voulais partager avec vous, c'était ce nouveau métier, puisque effectivement, le métier de coordinateur Atelier Santé-Ville faisait partie des nouveaux métiers de la politique de la ville. En tout cas, dans tous les travaux que j'ai eu la chance d'accompagner, que ce soit en termes collectifs ou les accompagnements individuels que la DAS du 93 avait mis en place, et là, un même clin d'œil à Fernande Pouillard, à Thierry Béranger, à Martine Dallet, et puis le soutien indéfectible, on va dire, de Profession Banlieue et de son équipe. Tous ces acteurs et toutes ces instances nous ont permis de réfléchir à ce métier et à essayer de faire des recommandations, dont les prémices d'un référentiel de compétences. Et je tiens à dire que le référentiel de compétences dans cette configuration-là ne visait surtout pas à figer les modes opératoires, mais bien à acter qu'il fallait fabriquer des réponses plurielles avec l'intelligence des acteurs de terrain, professionnels et profanes, hein, on le répétera, pour essayer d'amortir au mieux les inégalités sociales et territoriales de santé. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire ? Que le métier de coordinateur est vraiment protéiforme hein, et vous êtes là, je pense, pour vraiment montrer combien de facettes peut prendre le métier de coordinateur. À l'époque, avec Profession Banlieue, on en avait identifié trois profils principaux à partir des fiches de poste, quand elles existaient, parce que malheureusement, ça n'existait pas toujours et aujourd'hui, ça doit être le cas encore. Mais il y avait un profil de poste qui était clairement positionné en tant que chef d'orchestre avec la coordination et l'animation de réseau, qui était incarnée par la ville de Montreuil notamment, et la place de coordinateur qui était vraiment une place vraiment de chef d'orchestre. Il y avait un deuxième profil qui émergeait, qui était en plus d'être chef d'orchestre, d'aider les acteurs à monter les projets, à les formaliser, à rechercher les financements, à organiser le suivi et l'évaluation. Donc, c'était un métier encore plus complexe. Et puis, un troisième profil où là, on revient un peu à la confusion santé communautaire, démarche ASV, mais en même temps, cette démarche centrée sur la santé communautaire dans un quartier spécifique avait son utilité à l'époque, en tout cas, on verra. Donc, plusieurs facettes et qu'il faut être à la fois vigilant sur la variabilité de ces facettes et en même temps, effectivement, avoir de la souplesse par rapport aux besoins des territoires. Ensuite, ce qu'on avait pu constater, c'est qu'il y avait des intitulés quand même très variables dans la fiche de poste. Parfois, le terme coordinateur n'apparaissait vraiment pas. Et donc là, ça laisse à penser quand même qu'il peut y avoir certaines dérives de l'utilisation de ce poste. Ensuite, le rattachement dans l'organigramme était fondamental. On y a passé beaucoup de temps au sein du groupe de travail de profession banlieue et ça restait valable quand on a fait l'évaluation du volet santé des CUC sur d'autres territoires. Et puis, des postes qui sont peu stabilisés. Et donc, on est dans cette contradiction ou ce paradoxe hein, que ce métier est reconnu aujourd'hui, mais on est toujours sur des postes qui sont en CDD, rémunérés de façon faible. Et puis, je rappellerai qu'en 2012, par exemple, il n'y avait que 55% des coordinateurs ateliers santé-ville qui avaient un équivalent temps plein, alors que le besoin de coordination sur les territoires demande largement un équivalent temps plein sans se poser de questions plus avant. En tout cas, en réfléchissant sur ce métier, hein, il y a eu des propositions qui ont été faites et que je pense aujourd'hui pourraient resservir à rebattre les cartes, en tout cas à approfondir cette question-là. Je vous renvoie effectivement aux productions qui ont été faites dans le groupe de profession banlieue. Et puis, il y a eu aussi évidemment les écrits de Michel Joubert. Il y a eu ce fameux séminaire à Bordeaux. Et en fait, il y a beaucoup de matière par rapport au métier. Et je pense qu'il y a un certain nombre de questions qui mériteraient d'être reprises aujourd'hui. En se demandant si c'était à refaire, comment est-ce qu'on pourrait renforcer un certain nombre de choses. Donc, juste pour conclure, hein, moi, je dirais que les acquis sont nombreux. Après, je pense qu'il faut qu'on acte que dans le champ où on travaille, rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais gagné. Et qu'en 2013, le Haut Conseil en santé publique a quand même acté un certain nombre de choses hein, et reconnaissait, je cite, « la démarche comme assembleur de dynamique au niveau local, le développement de la promotion de la santé ». La recherche de participation des habitants et puis une fonction de coordination de proximité essentielle. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une belle reconnaissance. Après, il y a des points de fragilité, hein, on le sait, on l'a déjà dit. Rémunération, CDD, référentiel de compétences, formation nationale, suivi, évaluation de la démarche, etc. Savoir que les moyens qui étaient mis lors de la phase expérimentale n'ont pas forcément été mis plus tard. Et ça, c'est toujours le défaut en France de mettre un paquet de moyens sur les phases expérimentales. Puis après, on ne s'en donne plus les moyens. En tout cas, moi, j'ai envie de dire hein, et de dire à tous les coordinateurs et tous les instances et les centres de ressources, eh ben, gardons le cap. Gardons le cap pour aussi garder notre capacité à agir, hein, que disait... qu'ont mentionné à la fois Didier et Arnaud. Et pour cela, eh bien, je pense que les temps comme on a aujourd'hui, qui sont peut-être compliqués à organiser, sont essentiels parce qu'il faut vraiment qu'on partage les choses, qu'on se remobilise collectivement et qu'en en fait, il ne faut rien lâcher. Voilà, merci à vous.
Merci Chantal, merci beaucoup pour cette analyse nécessaire sur ces... Catherine applaudit sur ces années de développement et puis d'essaimage parce que je vais prendre la parole hein, dans la foulée et évoquer plus largement ces dynamiques territorialisées qui comment dire, ont succédé, ont complété la démarche de l'atelier Santé-Ville. Donc, continuez à réagir hein, comme vous le pouvez, soit question-réponse, soit sur le chat discussion. Je vais finir, moi, pour évoquer ce qui serait l'héritage ou à minima les enseignements qu'on pourrait tirer de ces dynamiques territoriales qui se sont multipliées, qui se sont diversifiées. Je vais développer trois points en prenant pour appui les ateliers santé-ville, les contrats locaux de santé, les conseils locaux en santé mentale que j'ai particulièrement suivis et que je suis depuis 2005 dans le cadre de l'instance régionale d'éducation promotion de la santé de la Nouvelle-Aquitaine. Et je finirai par quelques pistes, une piste de réflexion en fait qu'on a, qui traverse et agite la fabrique actuellement. Alors le premier point, c'est quand même, je crois qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il est plus nécessaire de sensibiliser et mobiliser les élus ou de convaincre les pouvoirs publics ainsi que les acteurs de la santé à ce que ces mêmes élus s'engage en santé. Ça, j'ai l'impression que c'est acquis et ça a été renforcé aussi par la mobilisation de ces collectivités et de ces élus pendant la crise sanitaire qui est toujours en cours. Je reprends à ce propos ta formule, Catherine, que je trouve très juste sur le pouvoir de convocation des maires, hein, qui reste sans égal, on l'a vu là, pendant la gestion de cette crise sanitaire, comme quoi ce n'est pas qu'une question de compétences formelles, mais davantage de légitimité et de confiance. Dans leur grand ensemble, les élus locaux sont conscients de leur intérêt à agir en santé et rares sont ceux qui s'en tiennent encore à cet argument qu'on entendait il y a 10-15 ans, comme quoi la santé, c'est l'État. Toutefois, si la santé est indéniablement devenue un enjeu politique localement et tout particulièrement du fait de la crise sanitaire que nous traversons, tous les territoires ne sont pas logés à la même enseigne. À ce propos, il suffit de voir la recrudescence des mandats dont l'intitulé évoque explicitement la santé, mais qui fleurissent essentiellement sur les territoires urbains et au sein des grandes intercommunalités. Alors actuellement, un des facteurs de rééquilibrage entre l'urbain et le rural, c'est quand même la forte implication en santé des régions qui entraîne dans leur sillage des intercommunalités avec lesquelles elles contractualisent autour d'enjeux touchant au bien-être, à l'attractivité des territoires et notamment en matière d'offre de soins. Quoi qu'il en soit, si c'était à refaire, puisque c'est quand même un des questionnements de cette première partie, il faudrait probablement être plus vigilant au soutien des territoires ruraux qui n'ont pas autant profité des expérimentations et de l'émulation soulevées par les ateliers Santé-Ville. Ils ont tout de même avancé, ces territoires ruraux, et notamment dans une autre culture très proche de celle de la promotion de la santé que je vais évoquer, qui est celle du développement durable. Et maintenant, on voit des dynamiques se retrouver et tenter de nouer des passerelles entre notamment les PAT, les projets alimentaires territoriaux, et les contrats locaux de santé. Alors un deuxième point qui serait un acquis, j'espère, c'est l'émergence de nouveaux métiers. Alors, je ne vais pas m'étendre sur cet enjeu qui a été évoqué par mes camarades et notamment Chantal. Toutefois, ces nouveaux métiers sont intimement liés à des nouvelles modalités d'action, voire à nouveaux paradigmes d'intervention, pour utiliser un terme à la mode, à savoir la mise en œuvre concrète de la promotion de la santé. Et jusqu'alors, la coordination en santé relevait des soins avec des approches très ciblées. Les coordonnateurs des dynamiques telles que les contrats locaux de santé sont désormais amenés à animer des dynamiques pluridisciplinaires qui cherchent à agir sur plusieurs déterminants. Ces dynamiques qui rassemblent de nombreux acteurs et institutions plus ou moins convaincus que la santé est une responsabilité partagée, mais qui par ailleurs continuent à travailler de manière très sectorielle. Et de plus, la mise en œuvre de ces dynamiques territorialisées est essentiellement confiée, pour ne pas dire déléguée, à des collectivités ou groupements de collectivités via des cadres contractuels très aliénants et qui limitent quand même les possibilités d'émancipation et de développement de ces capacités d'agir. Donc là encore, si c'était à refaire, comment se fait-il que ces dynamiques qui se multiplient aujourd'hui continuent à faire figure d'exception ou du moins de dispositifs subsidiaires dans un paysage de la santé publique qui a quand même très peu évolué en la matière? Un troisième point, indéniablement, en associant largement de nombreux acteurs à des dynamiques ambitieuses, programmatiques et qui relèvent d'une méthodologie de projet, les capacités d'agir des partenaires se sont accrues. Des cultures communes se sont développées, permettent au pouvoir public d'attendre des opérateurs de terrain de porter des actions de qualité, bordées par des référentiels d'évaluation de plus en plus nourris par la littérature grise, dans des démarches de capitalisation, transférabilité, etc. Donc, dans cette ère des pratiques de santé fondées sur les preuves, les dynamiques ASV, CLS, CLSM, qui portent ces programmations d'action, continuent de pâtir d'évaluations très flottantes, qui oscillent entre l'évaluation de la somme de leurs actions, les actions qu'elles suivent, et parfois la réécriture empirique des objectifs a posteriori. Je crois qu'on l'a tous vécu, ça. Donc, là encore, si c'est à refaire, comment se fait-il que la France, qui se targue d'avoir une culture de l'évaluation si poussée, reste incapable de donner un cadre évaluatif homogène et adapté à ces dynamiques territoriales de santé qui maintenant ont 20 ans d'expérience. Voilà, pour finir et passer le relais à la table ronde, je vous livre donc en synthèse la réflexion qui agite depuis 2-3 ans et qui s'est accentuée par ce qu'on a pu observer durant la crise sanitaire, qui donc traverse la fabrique. Ces dynamiques territorialisées dont nous parlons, qu'elles se multiplient, se superposent, qu'elles fusionnent ou se distinguent en fonction des échelles. Bref, quelle que soit l'évolution de ces dynamiques, doit-on considérer qu'elles viennent compléter les politiques de santé ou qu'elles préfigurent une nouvelle forme de gouvernance locale et partagée en santé? Voilà, sur ce, Didier, je te repasse la parole. Je pense qu'il y a quelques questions-réponses. Tu les ventileras vers les interlocuteurs concernés.
Oui, ben merci, merci beaucoup Arnaud, merci beaucoup Catherine et Chantal. Donc en fait, il y a deux paquets de questions. La première, c'est ça concerne les ateliers Santé-Ville en eux-mêmes, avec une question qui est, est-ce que les ateliers Santé-Ville permettent de toucher toutes les couches de population et si oui, comment le font-elles? Et concernant aussi l'action des ASV, une participante ou un participant dit « Comment sauvegarder et consolider la particularité des spécificités d'intervention des ateliers santé-ville quand ces derniers sont souvent intégrés dans les contrats locaux de santé ?» Il y a souvent une démarche descendante liée aux programmes régionaux de santé des agences régionales de santé dans les contrats locaux de santé et une démarche ascendante des ateliers santé-ville partant des besoins du territoire et favorisant les expérimentations. Et c'est une force pour les territoires. Donc, ça, c'est la première partie. Je te donne la parole, Catherine. La deuxième, c'est sur la question des démarches communautaires de santé. En fait, c'est de développer, quand tu as dit, Chantal, que les ASV abritent des démarches communautaires, mais n'est pas une démarche de santé communautaire. Donc, à partir de cette question, est-ce que tu peux développer, ce qui permettra aussi de relayer, en fait, la question de Philippe Lefebvre de l'Institut Renaudot, mais on y reviendra. Donc, peut-être d'abord Catherine et ensuite Chantal. Et on termine à 10h45 de toute façon, donc on a 5 minutes à peu près. Catherine.
Oui, sur la première question, si les ateliers santé-ville s'intéressent à toutes les couches de la population. Déjà, le quartier, les profils, hein, je ne sais pas quelles sont les études actuelles, je n'ai pas regardé le site de…
L'Agence de cohésion des territoires, l'Agence nationale de cohésion des territoires, c'est ça la ANCT ?
Oui, c'est ça.
C'est ça, voilà, très bien.
Non, toutes les couches de la population, c'est une question intéressante, mais je pense que… La politique de la ville travaillait spécifiquement sur les quartiers. Et ces quartiers-là, déjà, avaient une sacrée extension en nombre de représentations, en nombre d'habitants. Ils étaient vraiment, ces territoires étaient définis vraiment pour une question de revenus. Il y avait un médian qui était calculé pour pouvoir définir la géographie des quartiers. Et donc, s'il y avait plusieurs couches, parce qu'il y avait plusieurs couches d'âge, je veux dire plusieurs générations qui pouvaient intéresser justement des actions à porter, mais toutes les couches de la société, ça voudrait dire qu'ils s'élargissent à l'ensemble du territoire. C'est pour ça que je marquais cette distinction lorsqu'il y a eu le cahier des charges qui avait été élaboré avec Laurent Chambaud et le secrétariat général de la DGS, c'était de distinguer ce qu'était le CLS des ateliers santé-ville. Parce que d'abord, moi je trouve que ça facilite l'idée de l'évaluation entre des territoires appartenant à une commune et comment, en effet, on réduit déjà à partir de là des inégalités. Ensuite, il y en a d'autres qui sont à étudier sur d'autres échelles, par exemple l'agglomération. Il y a plusieurs communes et plusieurs quartiers, donc là, c'est d'autres sujets que l'on pourrait aborder. Et là, ça touche toutes les couches de la population. Et c'est bien ce que je disais, c'est un peu la poupée russe, on pourrait dire. Ça répond aussi à la question de l'ascendant et descendant. Il y a un premier contact, on pourrait dire, que pourrait avoir l'ASV. C'est dans le cadre du comité de pilotage ou même simplement dans des échanges qu'il peut avoir avec les services ou même les élus. C'est de dire, voilà ce qu'apportent les ateliers santé-ville, voilà ce qui est observé dans les quartiers et les problématiques qui se posent. C'est déjà une première écoute de la part de l'élu. Et le côté descendant, là, ce sont les autorités aussi bien sanitaires que les préfets qui peuvent entendre aussi par l'élu, porté par l'élu, les difficultés qu'il peut y avoir sur leur territoire. C'est en cela, c'est un va-et-vient, le descendant-ascendant. Alors, par contre, je sais bien la difficulté, c'est bien ce que je disais aussi dans mes propos, c'est de dire cette tension que révèle aussi Laurent Chambaud, cette tension qui est qu'on n'écoute pas, je crois que les manifestations nous l'ont montré, qu'on n'écoute pas du tout quand la population prend la parole ou essaye d'exprimer quelque chose.
Merci Catherine, et je vais donner la parole à Chantal sur la question de la démarche communautaire, de santé communautaire, etc. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ?
Oui. Alors, moi, je trouve que c'est quand même des cadres qui se regroupent, mais qui sont aussi différents. Une démarche ateliers santé-ville sans démarche communautaire associée ne répond pas vraiment à la méthode d'un atelier santé-ville, à savoir que dans tous les ateliers santé-ville, on doit pouvoir retrouver des dynamiques participatives avec les habitants, avec ce que je disais tout à l'heure, les médiateurs, les femmes relais, tous ces profanes, entre guillemets, dont l'expérience vécue doit être prise en compte. Après, est-ce qu'une démarche communautaire peut être l'équivalent, on va dire, d'une démarche atelier santé-ville ? C'est ce qui a été constaté dans un certain nombre de collectivités, mais on voyait bien que l'énergie et les savoir-faire à avoir dans le cas des démarches communautaires, en fait, permettait de travailler sur des micro-territoires de façon ultra pertinente et avec ces trois enjeux que citait Michel Joubert, l'enjeu de citoyenneté qui pour moi est essentiel. Et en même temps, ce n'était pas suffisant pour incarner, on va dire, l'ensemble des facettes de la démarche citoyenne santé ville. En tout cas, pour moi, ce sont deux aspects qui sont intimement liés et que là-dessus, il faut toujours qu'on progresse parce qu'on n'est pas très bon en France. Et en même temps, il y a des petites expérimentations qui sont vraiment des petits bijoux et qui nous appartient aussi de faire fructifier.
On peut dire aussi effectivement qu'on est on est en partenariat avec l'Institut Renaudot qui essaye effectivement depuis des années et des années de promouvoir cette approche communautaire. Alors, il y a une dernière question, mais je ne vous demanderai pas de répondre parce qu'on va passer la table ronde du fait du temps. C'est le lien, c'est Antoinette Pizzero qui pose la question du lien de l'articulation entre Atelier Santé Ville et Communauté Professionnelle Territoriale de Santé, c'est-à-dire CPTS. La réponse est la suivante. La Fabrique Territoire Santé vient d'entamer une étude justement pour connaître un peu mieux les liens qu'il y a entre les ateliers Santé Ville et CPTS. Dans l'immédiat, on vient d'entamer cette démarche et dans l'immédiat, on ne peut pas répondre, on répondra plus tard dans un autre temps. Donc voilà, merci beaucoup à Catherine, Chantal et Arnaud.